France Inter.
Citoyens et citoyennes,
camarades,
compagnons,
travailleuses, travailleurs,
françaises, français,
et tous les autres, bienvenue dans Enquête de politique. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h.
Enquête de politique. Thomas Legrand sur France Inter.
Masculinisme, le retour. Le masculinisme revient, la nature du trumpisme triomphant est antiféministe et affirme dans ses codes et par ses mots que l'Amérique doit se reviriliser. Donald Trump bombe le torse et valorise la brutalité en toute chose. Elon Musk se pavane avec l'un de ses fils, jamais de fille sur les épaules. Mark Zuckerberg fait de la musculation. Chacun d'eux déclare que le wokisme est l'ennemi suprême, que le féminisme a été trop loin. Est-ce un retour de balancier après des décennies de progrès dans l'égalité des sexes alors que nos sociétés étaient encore loin du compte? Est-ce une étape, une pause, le temps qu'une partie des hommes qui se sentent insécurisés s'adaptent? Est-ce un ressac anthropologique ou un épiphénomène de surface? Pourquoi la déconstruction est-elle souvent vécue comme une destruction? Est-ce le résultat d'une panique conservatrice qui finira par s'estomper? Est-ce tout simplement la peur de perdre une situation privilégiée? Et quel rôle jouent les réseaux sociaux et le nouvel écosystème médiatique fait d'algorithmes polarisateurs dans ce mouvement rétrograde? C'est ce que nous allons explorer avec nos trois invités. Yvan Jablonka, historien et écrivain, vous avez écrit Laetitia ou La fin des hommes, des hommes justes du patriarcat aux nouvelles masculinités et Un garçon comme vous et moi, ces trois livres au seuil. Nous sommes aussi avec Claire Allais, journaliste au 1, autrice de Matrice, aux origines de la domination masculine, aussi au seuil, et Aurélie Jean, scientifique spécialiste des algorithmes et autrice du Code à changer, amour et sexualité au temps des algorithmes, aux éditions de l'Observatoire.
Je suis un homme, c'est-à-dire quelqu'un de viril, et chez nous, ces qualités sont considérées comme telles.
Les jeunes hommes ont des mots et des comportements de midinette très fleur bleue.
Les femmes qui se disent « les hommes ont tout faux, je dois être moi-même, faire carrière, faire ci ou ça », elles se réveillent à 45 ans, elles vivent seules, avec leur chat et sont malheureuses.
On me pose souvent la question si une femme gagne plus que toi. Ça me rendrait inconfortable. Pas bien dans mes baskets, ouais.
Je ne vais pas demander pardon parce que j'ai un pénis. Je n'ai pas à avoir honte car je suis un homme blanc, blond, avec des yeux clairs. Je ne concéderai rien. Rien au marxisme culturel. D'ailleurs, je vais supprimer le ministère des femmes.
Je pense que les choses sont allées un peu trop loin à dire que la masculinité, c'est toxique et qu'il faut s'en débarrasser. Je crois vraiment que la culture d'entreprise s'est tournée vers une forme d'émasculation.
La masculinité, c'est la richesse des pauvres. C'est ce que vous avez quand le monde vous enlève tout. C'est la seule chose qui vous reste.
Je ne suis pas votre secrétaire. Et l'idée est que nous travaillons ensemble, d'égal à égal.
On en reparlera quand il faudra porter quelque chose de lourd.
Voilà, vous avez peut-être reconnu Jean-Marie Le Pen, Éric Zemmour, dans l'ordre. Hein. Richard Spencer, figure de l'alt-right américaine. La Menace, c'est un influenceur masculiniste français avec plus de 500 000 followers. Javier Milei, le président argentin, Mark Zuckerberg et enfin, dans un tout autre genre, Édouard Louis et Jean Dujardin, OSS 117. Je vais d'abord vous demander à chacun d'entre vous, comment vous expliquez le retour du masculinisme, le retour du machisme comme une sorte de ressac. Yvan Jablonka.
Je crois qu'il faut d'abord faire la différence entre la culture virile, la domination masculine et la réaction masculiniste. La culture virile, c'est un certain nombre d'attributs, d'activités par lesquels les hommes se composent une espèce de culture. Alors, ça peut être tenir l'alcool, tailler sa barbe. Bon, ça, c'est ce qui renvoie historiquement à la virilité. Ensuite, il y a ce que j'appellerais la domination masculine, ou ce qu'on appelle aussi le patriarcat. C'est la conviction que la société doit être androcentrée et que les hommes doivent avoir le monopole des pouvoirs, des responsabilités, du temps de parole, du sacré, etc. Et le troisième aspect, c'est la réaction masculiniste qui est différente parce qu'elle exprime du mépris pour les femmes qui réclament leur part de pouvoir, ou tout simplement pour les femmes qui veulent être émancipées. Et donc, on pourrait définir le masculinisme comme une contre-révolution antiféministe, une espèce de réaction misogyne qui vient dénier aux femmes le droit à la liberté, l'égalité, l'émancipation. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit bien sûr aujourd'hui aux États-Unis, en Argentine, en Hongrie, en Pologne, en France aussi bien sûr, mais c'est quelque chose qui appartient à l'histoire du féminisme, puisque par définition, dès lors qu'il y a féminisme, il y a cet instinct contre-révolutionnaire qu'on trouve chez certains hommes et qui consiste précisément à haïr les femmes émancipées et à s'inscrire en faux contre le féminisme.
C'est une réaction vis-à-vis d'une perte de pouvoir des hommes.
Oui, je crois. Et puis c'est surtout aussi une réaction à ce qui est perçu comme un dérèglement du monde. Il y a des mythes qui montrent que quand les femmes prennent le pouvoir, eh bien, tout se dérègle, tout s'effondre, c'est le chaos. C'est des mythes qu'on retrouve et qui sont presque importés directement dans les discours qu'on vient d'entendre. Et pour l'Europe contemporaine, on le voit à partir du début du 19e siècle. On voit par exemple dans certains textes de loi, à l'époque de Napoléon, il y a vraiment une manière de remettre les femmes à leur place parce que elles ont voulu être plus libres, plus égales, elles ont voulu réclamer une société moderne politiquement. On le voit aussi dans les années 30 avec une espèce de panique autour d'une virilité qui serait perdue. Et évidemment, aujourd'hui, on le voit. Donc, il faut l'analyser comme le retour d'une pensée ancienne qui est une espèce de haine antiféministe.
Oui, et on verra avec vous tout à l'heure que le masculinisme, c'est aussi étouffant pour les hommes. Aurélie Jean, alors vous, je précise que vous habitez aux États-Unis, là vous venez de débarquer. Vous venez de débarquer des États-Unis et vous y repartez dans quelques jours. Comment expliquez-vous ce retour du masculinisme?
Je pense qu'il y a ce que disait monsieur, c'est-à-dire qu'on a un retour en réaction en fait à l'émancipation économique, sociale, émotionnelle, intellectuelle des femmes, et qui je pense a peut-être du mal à passer. Donc c'est une réaction assez primaire en vérité. Et maintenant, si je pense plutôt par rapport à la science que je maîtrise et dans laquelle je travaille, la science algorithmique, c'est aussi parce qu'aujourd'hui on a des nouveaux médias, des nouveaux modes de communication, de partage de contenu et d'expression de sa voix et de son opinion qui alimentent les contenus polémiques, ils les mettent davantage en avant, les contenus polémiques, transgressifs, violents. Donc il y a une première chose, si on prend l'exemple de X, mais comme tous les autres, la majorité écrasante des réseaux sociaux, en fait, s'appuie sur un modèle économique dit de l'attention qui va engager davantage l'utilisateur. Et donc, en réponse à cela, c'est d'aller mettre en avant davantage les contenus qui vont faire polémique et dans lesquels les utilisateurs vont davantage s'engager. Donc c'est pour ça qu'on a une propagation des fausses nouvelles incroyables et qu'on a aussi une propagation de propos antiféministes, masculinistes, toxiques, violents envers les femmes. Et par ailleurs, faut pas l'oublier non plus, donc il y a cet aspect-là, purement algorithmique. Il y a un aspect qui n'a rien à voir, en tout cas pas directement avec l'algorithmique, qui est, si on prend le cas d'Elon Musk, patron de X, qui a, après le rachat de X, a demandé explicitement, et il l'a fait savoir, de mettre plus en avant, de mettre un poids statistique plus fort sur l'occurrence de ses propres contenus, de manière à ce qu'on voit plus ses contenus à lui que les autres. Et lui est un propagateur, en fait, de propos assez misogynes, masculinistes, envers les femmes.
Alors, je l'ai dit, vous êtes scientifique, spécialiste des algorithmes. On va vous demander tout à l'heure de nous expliquer presque techniquement, mécaniquement, comment ça marche, comment on fait pour que le masculinisme soit mis en avant. Vous avez écrit une chronique très intéressante dans Le Figaro, vous collaborez avec Le Figaro régulièrement, et c'est pour ça que je vous ai invité. Claire Allais, vous êtes intéressée aux origines du masculinisme, de la domination masculine. Pourquoi le masculinisme revient selon vous ?
Le masculinisme existe depuis que le féminisme existe. L'historienne Christine Barr dit même que le masculinisme a pu le précéder. C'est un mouvement que on voit apparaître dès la fin du 19e siècle, en fait, quand les suffragettes demandent le droit de vote pour les femmes. Et puis, en fait, là, aujourd'hui, pourquoi est-ce que ça réémerge de manière particulièrement visible? Je pense qu'il y a aussi un masculinisme politique. Et c'est peut-être ça qui est nouveau aujourd'hui, puisque notamment avec Trump à la Maison Blanche, mais il n'est pas le seul, hein. Il y a Milei en Argentine, il y a Orban en Hongrie.
La Russie, bien sûr.
La Russie, bien sûr. Poutine. Il y a cette idée qu'il faut défendre une forme d'ordre naturel dans lequel la domination masculine est éminemment prégnante. Et la domination masculine, c'est quoi? Eh ben, c'est une organisation des sociétés dans laquelle il y a une hiérarchie entre le masculin et le féminin. Je préfère dire masculin et féminin plutôt que homme et femme, parce qu'il ne s'agit pas d'individus, mais il s'agit de formes de valeurs et de symboles du masculin et du féminin dans lequel le masculin est supérieur au féminin. Et c'est avant tout ça que défendent et prônent les masculinistes.
Alors déjà, un petit point de vocabulaire. Yvan Jablonka a commencé à nous l'expliquer, mais comment on peut différencier machisme, virilisme ou masculinisme, Claire Allais?
Alors, le masculinisme, donc, c'est vraiment une réaction, un contre-mouvement antiféministe. Le virilisme, c'est un ensemble de valeurs qui s'est beaucoup développé au XIXe siècle, mais qui était déjà présent dans l'Antiquité, qui sont la force, le courage, la maîtrise de soi. Le machisme, c'est une forme de mépris des femmes.
Alors, je voudrais vous faire écouter un monsieur qui s'appelle La Menace, qui est une star sur Internet, une star sur les réseaux sociaux, un influenceur qui a fait beaucoup d'argent en valorisant tout ce qui était masculin, tout ce qui était automobile, tout ce qui était violence. Il s'appelle La Menace.
Le rôle d'un homme, pour moi, c'est simple, c'est le protecteur d'un foyer, celui qui va assurer la sécurité non seulement physique, mais aussi financière de son foyer, celui qui va prendre soin de sa femme, de ses enfants, en leur assurant un avenir. Et à l'inverse, bien évidemment, le rôle de la femme sera de prendre soin de son mari en essayant d'être son pilier mental à la maison, d'habiller son mari, de lui repasser les chemises, de faire à manger, de faire la vaisselle. Et vous savez, on me dit tout le temps, oui, mais une femme, on peut la remplacer, non? On peut prendre une femme de ménage pour ça. Elle est là qu'à aller travailler. Mais où est alors la beauté d'un foyer si on prend une nounou, si on remplace notre femme par d'autres qui seraient là juste pour une compensation financière? Moi, à titre personnel, je ne trouve pas ce système beau, en fait. Parce qu'on peut tout acheter. Je peux aller voir des prostituées si j'ai envie de faire l'amour. C'est pas mes valeurs. Je veux que ce soit ma femme qui s'occupe de moi. On me pose souvent la question si une femme gagne plus que toi. Ça me rendrait inconfortable. Pas bien dans mes baskets, ouais.
Donc c'est un propos de 2025, et La Menace est très suivie par de nombreux jeunes hommes. Et je vous l'ai fait écouter parce que dans votre livre, Claire Allais, vous citez Balzac. Oui, la femme est un être faible qui doit, en se mariant, faire un entier sacrifice de sa volonté à l'homme, qui lui doit en retour le sacrifice de son égoïsme. La Menace dit beaucoup moins bien ce que disait Balzac, mais finalement, c'est un retour en arrière spectaculaire.
Ah oui, c'est bien de préciser que ce témoignage, enfin ces propos datent de 2025 parce que il y a vraiment une tonalité 19e siècle en fait, qui est un siècle éminemment viril, machiste. Et je pense que Napoléon ne dénierait pas les propos de La Menace où il y a cette idée que derrière une forme de un peu de complémentarité, l'homme protège et la femme soigne, je caricature. Ben voilà, c'est cette idée d'ordre naturel où tout serait bien rangé. Mais c'est vraiment se voiler la face. Ce dont il s'agit là, c'est tout simplement d'un système hiérarchique, parce qu'on voit bien comment il dénie absolument le droit des femmes à une autonomie économique et financière, notamment. Et d'ailleurs, au XIXe siècle, dans le Code Napoléon, qui avait vraiment gravé dans le marbre cette forme de hiérarchie entre les hommes et les femmes, il y avait aussi gravé le fait que les femmes étaient des mineurs et des mineurs à vie, c'est-à-dire qu'elles passaient l'autorité de leur père à l'autorité de leur mari. Donc derrière cette idée de les hommes protègent et les femmes soignent, en réalité, c'est une pure hiérarchie entre les hommes et les femmes, défavorable aux femmes.
Voilà, et ce propos, on a l'impression que certains cherchent finalement des structures anciennes pour se rassurer dans un monde de plus en plus complexe et de plus en plus insécure, comme on dit aux États-Unis.
France Inter, enquête de politique. Thomas Legrand.
Et nous sommes toujours avec Claire Allais, Aurélie Jean et Yvan Jablonka en quête de masculinité. Yvan Jablonka, vous êtes historien et votre particularité, on la connaît, c'est d'utiliser votre propre histoire, d'utiliser l'histoire de votre famille pour raconter l'histoire avec un grand H. Et puisqu'on parle de termes, dans cette émission, on aime bien analyser les termes du débat. Vous avez inventé deux termes qui m'intéressent pour cette émission. D'abord, dans Un garçon comme vous et moi, vous parlez de votre garçonnité quand vous étiez jeune. La garçonnité, pourquoi avoir inventé ce terme? Qu'est-ce que vous vouliez dire par là?
La garçonnité, c'est une notion que j'ai proposée au croisement du genre et de la génération. Je veux dire par là que tous les âges de la vie...
C'est génération, c'est un autre mot que vous avez aussi inventé, la génération. Donc la garçonnité et la génération.
Ce que je veux dire par là, c'est que tous les âges de la vie se développent d'une certaine manière selon qu'ils sont à l'ombre du masculin ou du féminin. Et en l'occurrence, la garçonnité, c'est le fait, quand on est un jeune de sexe masculin, d'accepter ou non le programme culturel et social que toute la société
vous
propose.
Donc vous, dans les années 80, 70-80
Moi, j'ai pris l'exemple de mon enfance et de mon adolescence, donc à la fin du XXe siècle, et j'ai essayé de comprendre quelles avaient été les prescriptions culturelles que la société me proposait, enfin proposait à ma classe générationnelle.
Entre
mais aussi
Goldorak
à ma classe,
et Candy.
Par exemple, où je suis aussi la génération qui a vu se démocratiser la pornographie, par exemple, ou à travers les clubs de sport, à travers l'hétérosexualité obligatoire, etc. Tout à l'heure, vous disiez que les propos de l'influenceur La Menace étaient de 2025. En fait, ils sont de 1804. Ils sont du début du 19e siècle. On retrouve à l'état pur cette pensée dans le Code Napoléon, comme il a été dit, selon laquelle l'homme protège et la femme obéit. Donc pour moi, c'est typiquement ce que j'appellerais une pensée morte. C'est une pensée morte, ce sont des paroles mortes qui viennent, tel un ressac, à chaque fois salir notre société comme une espèce d'éternel retour.
Est-ce que ça veut dire qu'elle ne vous inquiète pas ? Ce sont des pensées mortes qui prouvent plutôt que la puissance de l'égalité homme-femme, de l'avancée de l'égalité entre les hommes et les femmes ? Ou est-ce qu'elle vous inquiète ? Le fait que vous disiez que ce sont des pensées mortes est plutôt rassurant.
Ce que je veux dire, c'est au sens intellectuel. Ce sont des pensées mortes parce que ce sont des pensées qui ne sont pas tournées vers l'avenir, mais qui, de manière plus générale, ne comportent aucune vie. Ce sont des pensées qu'on retrouve presque à l'état chimiquement pur chez Aristote ou chez Kant, oui. Et puis qui reviennent comme ça et qui se prévalent souvent d'une forme d'originalité, voire de subversion, et qui ne sont que des ramassis de clichés. On le trouve aussi à la fin du XXe siècle, donc il y a encore quelques décennies, dans le début du masculinisme contemporain, sous la forme des groupes mythopoétiques qui consistaient à renouer avec le mal profond. Il y avait un écrivain activiste américain qui s'appelle Robert Bly et qui avait publié un livre à succès qui s'appelle Iron John, inspiré donc d'un conte des frères Grimm, Jean de Fer, et qui consistait justement à montrer que les jeunes garçons devaient renouer avec leur masculin profond et assumer leurs émotions. Ça, c'est le début du masculinisme culturel dont on retrouve aujourd'hui encore les métastases. Et à cela s'associe une contre-révolution politique qu'on trouve chez des dirigeants européens et américains. Le premier, à mon sens, c'est Berlusconi, qui associe cette attitude de clown maléfique et de profond misogyne, on l'a vu, à travers un certain nombre de scandales. Et aujourd'hui, Bolsonaro ou Trump ou encore Milei ne sont en ce sens que des épigones, des émules. Donc il faut voir comment cette pensée et ces attitudes sont certes inquiétantes, mais elles s'inscrivent dans une longue histoire. Et qui dit histoire dit aussi antidote.
Mais qu'est-ce qui structurera les années, les décennies à venir ? Plutôt la suite du progrès du féminisme ou ce retour de vieilles structures ?
Je pense que tout est en train de se reconfigurer et, contrairement à ce que certains disent, il ne s'agit pas d'une guerre des sexes. On voit bien que la situation politique et intellectuelle n'est pas en train de se reconfigurer entre d'un côté des hommes qui seraient néfastes, misogynes, agressifs, et de l'autre des femmes qui seraient des victimes ou au contraire des pauvres petites choses. Oui. On voit bien que des dizaines de millions de femmes ont voté pour Trump et on voit bien à l'inverse qu'il y a des hommes qui ne se reconnaissent pas dans ce prétendu ordre naturel et dans cette prétendue hiérarchie entre le masculin et le féminin. Donc à mon avis, il y a une reconfiguration qui est en train de se produire sous nos yeux et au fond, c'est un combat entre ce qu'on pourrait appeler un progressisme et une contre-révolution misogyne.
Et alors ce qui est intéressant dans votre œuvre, et j'aimerais que vous nous l'expliquiez un peu, vous décrivez la façon dont finalement le masculinisme, le virilisme pèse aussi sur nous les hommes. Enfin, ça nous étouffe. C'est quelque chose qui peut être lourd pour nous aussi. Et finalement, l'avancée du féminisme, ça nous libérait plutôt aussi, hein, petits garçons ou adultes que nous sommes. Et nous avons aussi à y gagner. Et ça, c'est dans votre œuvre.
Dans cette idée de garçonnité que j'évoquais, il y a une prison du genre. Moi, j'avais le sentiment dans les années 80 qu'on me proposait de manière obligatoire des codes, des programmes, des attitudes. Et c'est cette prison du genre que j'ai voulu analyser. Alors, un des premiers barreaux de cette prison du genre, c'est la virilité obligatoire. Le fait d'être fort, de pas pleurer, de tenir bon. Un autre de ces barreaux, c'est la culture de la drague hétéro, par exemple. Et puis, d'autres barreaux, ce sont des phénomènes d'aliénation. Boire beaucoup d'alcool ou rouler vite en voiture ou ne surtout pas aller voir un psy ou un thérapeute parce que ça, on sait bien que c'est des choses pour des filles. Et le résultat, c'est des statistiques aussi massives que terrifiantes. C'est-à-dire, les prisons sont occupées dans le monde entier par plus de 90% d'hommes. Ce sont historiquement les hommes qui se suicident davantage que les femmes. Il y a une espèce de violence contre les autres et contre soi-même qu'on retrouve dans le masculin. Et ça, ce sont des formes d'aliénation masculine dont il est urgent de se libérer.
Entre le féminisme et le masculinisme, il y a une sorte de polarisation. Et la polarisation, c'est un des éléments, Aurélie Jean, un des résultats de l'écosystème médiatique tel qu'il existe aujourd'hui, fait de toute info et fait des réseaux sociaux et des algorithmes. Expliquez-nous, Aurélie Jean, pourquoi les algorithmes, en ce moment, sont plus faciles, visiblement, à instrumentaliser pour favoriser des choses comme le masculinisme.
Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur les réseaux sociaux, on a ce qu'on appelle des algorithmes de recommandation qui vont vous suggérer des contenus en fonction de la manière dont vous utilisez le réseau. Donc ça part de quoi ? Cet algorithme de recommandation, il s'appuie sur un autre type d'algorithme, en l'occurrence qui est un algorithme de catégorisation des utilisateurs. Ça veut dire quoi ? Je vais pas rentrer dans les détails, mais l'idée, c'est d'aller classer statistiquement les utilisateurs par groupe, par catégorie, en fonction de similarités dans leur comportement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qui est-ce que vous allez suivre, le type de personne, le type de compte, le type de contenu que vous allez partager, aimer, écrire, etc., etc. Et donc de là, en fait, ces catégories d'utilisateurs, on va se retrouver, je donne toujours l'exemple des platistes, si vous pensez que la Terre est plate, si vous croyez que la Terre est plate, vous allez vous retrouver, il y a de fortes chances que vous apparteniez à une catégorie où la majorité écrasante des gens pense que la Terre est plate. Et en retour, l'algorithme de recommandation va vous recommander un contenu que des gens de votre catégorie en majorité ou en moyenne ont aimé avec l'idée en retour qu'il vous plaise. Et donc ça va vous engager davantage sur le réseau. Ça c'est un premier point. Donc on comprend très bien par rapport au masculinisme et ce dont on parle aujourd'hui que si vous avez ce genre de pensée initialement et que vous allez sur ces réseaux, vous allez commencer à aimer et suivre des contenus, par exemple ce charmant monsieur la menace, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez avoir en retour des contenus qui vont vous être suggérés, qui vont aller dans ce sens. Donc par un biais de confirmation, vous allez encore davantage vous aller dans ces croyances qui sont à mon sens extrêmement toxiques, c'est un point de vue personnel, et donc forcément vous allez avoir beaucoup plus de polarisation. Un autre point, c'est l'idée que, donc ça c'est concernant la recommandation, il y a un autre aspect de la recommandation qui s'appuie sur le système d'occurrence d'un contenu au regard de la manière dont les gens s'engagent vis-à-vis de ce contenu. Ça veut dire quoi ? Si les utilisateurs s'engagent beaucoup sur un contenu en particulier, le contenu va être davantage mis en avant. Il va être davantage recommandé, peu importe la catégorie d'utilisateur à laquelle
il est très liké.
Voilà, très aimé, très partagé, très commenté. Et on sait que les contenus polémiques et transgressifs violents sont très partagés. Commenter, c'est-à-dire qu'on peut commenter un contenu auquel on n'adhère pas du tout. Moi-même, si je vois un contenu qui dit que la Terre est plate, je dis absolument faux et je donne le lien vers une lecture un peu plus appropriée.
Ce qui fait, pour essayer de résumer, ce qui fait que finalement, quand on est sur les réseaux sociaux, on reçoit tout ce qui va dans notre sens
et des choses qui vont à l'opposé.
C'est-à-dire qu'on n'est jamais ou très peu en contact avec ceux qui pourraient penser un peu différemment de nous.
On n'a pas de nuance.
Nos voisins idéologiques qui pourraient nous faire réfléchir. Donc ça nous pousse à réagir plus qu'à réfléchir.
Mais le problème de ça, c'est que du coup, quand vous êtes face, enfin je prends mon cas, mais je pense que c'est le cas de beaucoup d'utilisateurs, il y a eu beaucoup d'études là-dessus sur la réaction des utilisateurs d'un réseau comme X, je prends ce réseau en particulier, vis-à-vis de contenus qui vont absolument dans le sens contraire de leurs idées, de leurs croyances. Je parle de croyances parce que par exemple pour les platistes, mais plein d'autres, je pense que le masculinisme est aussi une croyance pour les gens qui y adhèrent, c'est que forcément vous allez réagir de manière épidermique. En opposition à comment vous réagiriez dans le monde physique, organique, qui est ce studio, par exemple, à la radio. Et donc, c'est intéressant parce qu'il y a une polarisation qui se crée. Et du coup, les voix se libèrent dans le mauvais sens du terme. Et en parallèle de ça, et j'insiste parce que c'est important, c'est que les gens qui voient ça se disent après, c'est OK d'avoir un propos machiste,
oui, ça
sexiste,
valide.
Ça valide. Et quand on voit
ça
que le patron de X le fait lui-même, voilà. Et puis quand on voit qu'on a le patron de X qui se permet d'avoir des propos clairement machistes, sexistes, virilistes sur les réseaux sociaux, eh ben moi c'est ce que je dis tout le temps, c'est que les gens se disent que c'est accepté le fait de tenir ce genre de propos, et du coup les gens commencent à tenir ce genre de propos en dehors de la sphère médiatique que sont les réseaux sociaux. Et ça, c'est la théorie de la sociologue Dana Boyd américaine, qui explique justement que nos comportements sur ces réseaux vont influencer nos comportements dans le monde physique. Et là, ça commence à être très dangereux.
Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes d'une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. Pas les te faire en moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. Belle, t'es pas si bête. Pour une fille drôle, t'es pas si laide. Tes parents et ton frère, ça aide. Oh, tu parles de moi. C'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter. Pas les te faire en oui, je serai poli pour la télé. Mais va te faire. Peut-être ça changera. Y'a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Laisse-moi te chanter. Allez te faire en moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux.
Balance ton quoi, Angèle, sur France Inter, ça s'imposait.
Enquête de politique. Thomas Legrand.
Nous sommes toujours avec Yvan Jablonka, Aurélie Jean et Clara Allais, et nous nous interrogeons sur ce retour du masculinisme. Et je voudrais vous faire écouter Mark Zuckerberg, donc le patron de Facebook, qui est devenu un parangon du masculinisme. On le connaissait pas comme ça, et maintenant il fait de la muscu, il met des grosses chaînes de rappeurs, et il parle comme ça. Écoutez Mark Zuckerberg.
Je pense que les choses sont allées un peu trop loin à dire que la masculinité, c'est toxique. Je crois vraiment que la culture d'entreprise s'est tournée vers une forme d'émasculation. Et je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé à pratiquer les arts martiaux, qui font partie d'une culture beaucoup plus masculine. Une des raisons pour laquelle j'aime le jujitsu, c'est que ça me permet de m'exprimer. Quand on dirige une entreprise, les gens ne veulent pas que vous soyez sans pitié. Mais quand on me voit combattre, les gens se disent « ça, c'est le vrai Marc ». Je pense qu'avoir une culture qui célèbre encore plus l'agression, ça peut être positif.
Aurélie Jean, vous vivez là-bas, vous vivez en Californie en partie, vous connaissez bien ce monde-là. Tout à l'heure, Claire Allais nous expliquait, et Yvan Jablanca aussi, que finalement il y avait une sorte de retour idéologique des codes de la masculinité en réaction à l'avancée du féminisme. On peut se poser légitimement la question de la sincérité du monde économique, du monde de la tech. Mark Zuckerberg, vous nous avez bien expliqué qu'on voit bien l'avantage commercial qu'il y a à favoriser la polarisation, à favoriser,
parce qu'il y a pas de fatalité,
voilà, à favoriser des contenus qui circulent beaucoup plus et qui sont donc radicaux, comme le masculinisme l'est. Est-ce que vous pensez qu'il y a de l'idéologie là-dedans ou simplement de l'appât du gain? La transformation même physique de Mark Zuckerberg nous amène à nous poser cette question de la sincérité.
Alors je pense qu'il y a sûrement un peu des deux, et je peux pas parler au nom de Mark Zuckerberg, mais quand je l'ai écouté dire les propos qu'on vient de passer, Mark Zuckerberg, j'ai toujours douté de son authenticité, de sa sincérité, puisque quelques mois avant ses déclarations, il était dans une parade pour les LGBTQ+, à la Gay Pride, fièrement, à soutenant les droits des LGBT. Donc en fait, ce qui est intéressant avec Mark Zuckerberg, c'est que, comme beaucoup, c'est qu'on se demande, est-ce qu'ils ont véritablement changé, ou est-ce qu'ils avaient déjà cette idée que moi j'appelle des idées silencieuses, en fait, qu'on ne dit pas en public, parce que justement, il y avait, économiquement parlant, il y avait tout un intérêt à faire l'inverse pour aller dans le sens de l'opinion générale. À cela, il faut aussi rajouter qu'aux États-Unis, beaucoup d'entreprises ont ralenti, voire éliminé leurs programmes de diversité, d'équité et d'inclusion. En fait, les gens vont dire oui, mais il y a eu des erreurs, on a été trop loin. Mais
le fameux wokisme repoussoir.
Oui. Et même le wokisme, c'est intéressant parce que quand on parle du wokisme, c'est un mot que j'aime pas trop, parce que quand on en parle aujourd'hui, on parle du wokisme au sens mouvement quasi religieux aujourd'hui et idéologique. Mais le wokisme, initialement, c'est un mouvement intellectuel qui vient des universités, qui s'intéresse à révéler les différences de traitement entre les individus de façon à pouvoir tendre vers une égalité des chances. Donc c'est beaucoup plus noble que ce que certains en font aujourd'hui, et il faut toujours revenir aux origines historiques. Et donc partons de ce principe. C'est pas parce que certains ont possiblement fait des erreurs dans certaines évolutions sociales qu'il faut absolument revenir en arrière complètement. J'espère qu'on va pas revenir complètement en arrière et qu'on va continuer à avancer, parce que les gens vont justement réaliser tous les aspects négatifs et les conséquences collatérales de ce genre d'idéologie que Mark Zuckerberg et tant d'autres révèlent aujourd'hui, mais qui, je pense, encore une fois, avaient silencieusement en tête avant.
Claire Allais, quand vous voyez Elon Musk dans le bureau ovale avec un de ses nombreux petits garçons, dont personne ne retient les noms d'ailleurs, sur les épaules, se pavaner partout où il va avec ses enfants, toujours des garçons, comment vous réagissez à ça ?
Quand on a, comme eux, une vision de la société qui est extrêmement hiérarchisée, forcément, celles et ceux qui sont tout en haut, ceux, en l'occurrence, de la hiérarchie, sont ceux qui détiennent le pouvoir. Et donc, je crois que derrière cette attitude masculiniste politique, il y a tout simplement l'idée d'avoir un maximum de pouvoir économique, et ça se traduit aussi dans l'attitude de Donald Trump, au-delà du strict machisme, dans une forme d'agressivité politique, géopolitique. On voit bien comment est-ce que il veut s'approprier le Groenland, régler tous les problèmes de la planète, investir à Gaza. Enfin, il y a comme ça un côté un peu j'ai tous les pouvoirs dans tous les domaines, et bien évidemment y compris sur les femmes.
Oui, drill, baby drill, c'est aussi, il y a aussi l'extractivisme prédateur comme ça, qui sont des attributs assez masculinistes. Yvan Jablanca.
Moi, ce que je vois dans les propos de Zuckerberg, c'est la révélation de ce que j'appellerais un folklore masculiniste. Le masculinisme, c'est pas simplement des hommes politiques agressifs comme Trump ou Milei ou Bolsonaro, c'est aussi une espèce de culture, d'un entre-soi masculin qui se décline dans une espèce de galerie de personnages plus ou moins loufoques. Alors, par exemple, auprès de Trump, on a vu Brickman. Brickman, c'est un homme qui porte un costume avec des motifs de briques pour montrer son attachement au mur de séparation entre les États-Unis et le Mexique. On a vu un catcheur, Hulk Hogan, qui déchirait son t-shirt à la convention nationale républicaine pour montrer son adoration de Trump. Il y a un autre qui s'appelle Cannon Shannon, qui parade avec le visage maquillé, avec une coiffe en peau de coyote et des cornes de buffle. Et Zuckerberg est une autre forme de portrait de cette galerie. Lui, c'est plutôt le techno-plutocrate avec un t-shirt, il est cool, il fait des arts martiaux, et cette coolitude profondément plutocratique renvoie à une espèce de néo-virilisme qui est le chantre de cette énergie masculine projetée dans des entreprises monopolistique. Donc ce que je trouve intéressant, c'est voilà cette galerie de personnages qui montre que le masculinisme, c'est aussi une culture qui peut se décliner dans des habits, dans des mots, dans des manières d'être.
Mais ce que vous nous décrivez, c'est un folklore assez ridicule, assez superficiel. Ça ne ressemble pas à une vague profonde.
Ah si, je pense que ça renvoie à des choses très profondes, parce que, bon, ridicule, en tant qu'historien, moi, c'est des mots que j'utilise pas. Ce qui est sûr, c'est que ce sont des formes culturelles et folkloriques qui renvoient à des manières d'être, et ça montre que le masculin, et plus spécifiquement le masculinisme, sont tout à fait poreuses à des manières d'être qu'on pouvait croire réservées aux femmes. Par exemple, le fait de se maquiller ou le fait de se déguiser. Ça montre bien qu'il y a une capacité d'absorption des cultures, et notamment des cultures adversaires. Et ce renversement, on le voit, ça fait partie aussi de ce que réclament les réseaux sociaux et le numérique, c'est-à-dire une espèce de show permanent, une culture du trash et du clash qui permet de faire des clics, des millions de clics. Et ça, cette économie du clash et du trash, il faut l'alimenter par des attitudes excessives, clownesques. Et cette espèce de clownerie, c'est ce qui relie Hitler, Trump, Berlusconi, je ne parle pas des programmes politiques, bien sûr, mais je parle des attitudes. Et c'est pour ça qu'un génie comme Chaplin a tout de suite perçu le caractère clownesque de ce masculinisme et de cette agressivité politique pour les tourner en dérision. Et je crois que le masculinisme est très vulnérable à la moquerie. C'est pour ça que je pense qu'il faut se moquer d'eux. Il faut montrer qu'ils sont, d'une certaine manière, des pitres. Alors, des pitres dangereux, des pitres sinistres. Mais je crois que cet aspect de clownerie, il faut le mettre en évidence.
C'est intéressant parce que, quand vous parliez, je me disais qu'on pouvait presque adapter ce que vous disiez à la géopolitique. Il y a en ce moment une refonte des alliances et on a l'impression qu'il y a une géopolitique masculine et des ensembles plus féminins. L'Europe où on veut négocier, où on veut partager le pouvoir, on a l'impression que c'est finalement le village gaulois, c'est un peu paradoxal, mais le village gaulois d'une certaine féminité, alors que les grands ensembles chinois, russes ou américains, ces empires-là sont en train de valoriser la force, la masculinité. Est-ce qu'on peut dire qu'au niveau international, par exemple, on pourrait déterminer des ensembles masculins et des ensembles qui favorisent plus la féminité ou le féminisme?
Moi, je crois que c'est surtout des projets de société qui sont radicalement opposés. Vous avez d'un côté le désir de recréer une société verticale, autoritaire, où les hommes et les femmes correspondraient à leur supposée vocation biologique.
Et rassurante.
Un monde d'avant Simone de Beauvoir et même d'avant Olympe de Gouges. Et puis de l'autre côté, il y a un projet de société dans lequel je me reconnais, et je suis évidemment pas le seul, qui va davantage vers l'égalité, les droits de toutes et de tous, qui se tourne aussi vers l'émancipation et au-delà de la justice de genre. Le terme de justice de genre, je trouve que, enfin, j'y suis attaché, puis je trouve que c'est une expression qui est assez claire. La justice de genre, c'est une société juste au sens où les différences biologiques ne seraient plus associées à des inégalités sociales. On en est loin, mais au moins, il y a une utopie et c'est l'utopie des hommes justes.
Avec nous ce soir, Claire Allais, Aurélie Jean et Yvan Jablanca, en quête de masculinité. On est ensemble jusqu'à 19h.
France Inter, enquête de politique. Thomas Legrand.
Alors, Claire Allais, c'est un des thèmes de votre livre. La justice de genre, vous le dites pas comme ça, mais vous parlez de la construction et de la déconstruction.
Oui, pour revenir à ce qu'on disait, c'est vrai qu'il faut faire attention à ne pas essentialiser même la géopolitique où d'un côté l'agressivité serait masculine et la diplomatie serait féminine. Et en même temps, il faut bien qu'on pense, nous Européens, à la manière de réagir à cette agressivité américaine avec Donald Trump, dont il faut espérer qu'il y aura un changement dans 4 ans de l'autre côté de l'Atlantique. Effectivement, je crois qu'il y a dans cette idée, quand Donald Trump arrivait à la Maison Blanche, dans son tout premier discours, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il a dit désormais aux États-Unis, il y a deux genres seulement, le masculin et le féminin. Donc c'est beaucoup associé, le masculinisme, à
cette
une
panique de,
haine,
de la transition, de la possibilité de la transition. Oui.
Du trouble dans le genre. Hein. Et donc avec cette idée qu'il faut encore une fois rester dans un ordre des genres qui est éminemment hiérarchique et hétérosexuel.
Parce que c'est quand même la première fois où, alors c'est plutôt une question, est-ce que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on se pose la question de la séparation entre le genre et le sexe, de la possible inadéquation entre le genre et le sexe?
Alors je crois pas, parce qu'il me semble que à l'Antiquité il y avait effectivement
entre
les genres. Par contre, il me semble que c'est la première fois qu'un chef d'État, dans son discours, voilà, d'arriver à la présidence, précise que désormais il n'y aura que deux genres dans son pays. Je crois que en fait, ça prouve que ces émancipations sociétales, par rapport à l'idée qu'il n'y aurait que deux genres et en plus hiérarchisés, ben ça fait peur. Et j'imagine que ce que tente Donald Trump à travers cette vision, c'est de rassurer, mais en réalité, c'est d'une immense violence pour toutes celles et ceux qui se vivent autrement.
Religion.
Oui, j'aime beaucoup ce que disait Claire Allais par rapport aux mots. Donc, quand Donald Trump a parlé à 17 phrases, il existait deux genres, qui est assez violent, en fait, symboliquement. En fait, je pense que paradoxalement, aujourd'hui, alors que on n'a jamais autant échangé et communiqué en apparence, on ne se parle pas véritablement, et surtout, on ne mesure pas le poids des mots qu'on utilise. Et en particulier, donc là, vous parliez des États-Unis, mais en France, par exemple, notre président a utilisé dans un discours le terme de « réarmement de la France » pour la politique de natalité, et moi, j'ai trouvé que c'était extrêmement violent, en fait, de dire ça, et que même si on ne tient pas une politique masculiniste, comme heureusement pour nous, comme dans d'autres pays, c'est des petites choses comme ça qui font beaucoup de mal. Et par ailleurs, c'est pour ça que moi j'encourage beaucoup aussi de la pédagogie sur des termes comme féminisme, wokisme, diversité, inclusion, pour sortir de l'idéologie et rentrer dans le fond de la pensée intellectuelle qui permet de tendre vers un certain humanisme.
Oui, notamment le flou autour du terme wokisme qui
est très mal utilisé, parce que les gens l'attaquent sans le comprendre et sans comprendre le mouvement intellectuel d'origine.
Et je profite de cette occasion pour rappeler à nos éditeurs que nous avons consacré justement une émission sur le wokisme, au wokisme, qui est disponible en podcast et qui explique évidemment la problématique de ce terme. Je voudrais vous faire écouter Édouard Louis, l'écrivain. C'était à Mediapart en janvier 2025. Il explique pourquoi, selon lui, le masculinisme revient.
La masculinité, c'est la richesse des pauvres. C'est ce que vous avez quand le monde vous enlève tout. C'est la seule chose qui vous reste. Et on comprendrait aussi beaucoup pourquoi, dans certains quartiers populaires, je pense aux favelas dans les pays d'Amérique latine, par exemple, dans des quartiers extrêmement dominés, extrêmement brutalisés par la violence policière, extrêmement dépossédés socialement, économiquement, matériellement, il existe une culture de la masculinité, de la violence qui est très forte, parce qu'au fond, la violence, c'est tout ce qu'on a. Et mon frère, cette violence masculine, c'est tout ce qu'il avait. C'est le seul moment de sa vie où il n'était pas une victime de quelque chose. Et c'est problématique. Ça veut dire que pour lui, le seul pouvoir que lui laissait le monde, c'était le pouvoir, à travers sa masculinité, de détruire les autres, de faire du mal aux autres. Ce qui veut dire encore une fois que la masculinité, elle est connectée au monde. Il n'y a pas un espace autonome qui s'appellerait la masculinité. Ouais. C'est que peut-être si on augmentait les aides sociales, si on augmentait les salaires, si on améliorait les hôpitaux, si on améliorait l'école, les gens auraient d'autres choses que la masculinité et s'accrocheraient pas à ça et n'auraient pas cet outil comme dernier outil pour se dire « je ne suis pas rien, je ne suis pas qu'une victime, je suis fort aussi ».
Yvan Jablonka, sur cette vision sociale, cette explication sociale du retour de la masculinité d'Édouard Louis.
Oui, ça me paraît nécessaire de réfléchir aux raisons pour lesquelles des hommes, et notamment des jeunes hommes, votent pour des leaders masculinistes, et en l'occurrence Trump. Et il me semble que on ne peut pas en rester à l'explication de la haine des femmes et de l'inquiétude devant un monde où celles-ci cherchent à s'émanciper. C'est une explication importante, mais c'est pas la seule. Une autre explication, à mon sens, c'est le décrochage scolaire et universitaire qui touche de très nombreux jeunes hommes. Aux États-Unis, dans les universités, au niveau national, il y a 40% de jeunes hommes et 60% de jeunes femmes. Et autre statistique, en Angleterre, 15% des jeunes hommes sont en décrochage scolaire et universitaire complet contre seulement 11% des jeunes femmes. Cette espèce de décrochage traduit certainement un éloignement de la vie intellectuelle, culturelle, psychologique, ça c'est sûr, mais il y a aussi, je pense, une déconnexion par rapport à la marche du monde et notamment par rapport aux études. Et ça, c'est une question à laquelle il faut faire face parce que sinon, de plus en plus, ces jeunes hommes, notamment de catégories populaires, comme le laissait entendre Édouard Louis, voteront pour des partis d'extrême droite ou masculiniste. Et donc, une des réponses qu'on peut apporter au masculinisme, c'est sortir la gauche du coma où elle est actuellement et inventer une société plus juste, mais plus juste pour tout le monde, où tout le monde se reconnaîtrait. Et ça, c'est évidemment un des grands enjeux du siècle qui s'ouvre.
Claire Allais, sur cette explication d'Édouard Louis.
Je partage pas sa vision pessimiste pour plusieurs raisons. D'abord, pour faire suite à ce que disait Yvan Jablonka, on a peu parlé de la dimension politique au sens de partisane du terme, du masculinisme, qui est que ce sont des mouvements qui sont très liés à l'extrême droite. Pourquoi est-ce que les hommes, et aussi des femmes, votent malheureusement de plus en plus pour l'extrême droite? C'est notamment, et ça a été analysé par l'économiste Thomas Piketty, lié au fait que beaucoup de cet électorat sont ce qu'on nomme des perdants de la mondialisation. Et c'est là qu'on retrouve cette poche de pauvreté. Moi, j'aimerais, pour terminer, essayer d'apporter une note un peu plus positive, en estimant que les pauvres peuvent avoir d'autres issues et d'autres ressorts que le masculinisme et l'extrême droite, mais qu'ils pourraient, et c'est déjà arrivé dans l'histoire, bien évidemment, avoir un désir d'égalité. Et ce désir d'égalité, c'est ce qui est porté par le féminisme au sens large du terme et par des partis politiques qui ont d'autres, qui proposent d'autres perspectives que des replis nationalistes, masculinistes, etc.
Aurélie Jean, est-ce que vous arrivez à avoir comme Édouard Louis ce regard non pas bienveillant mais un peu compréhensif sur les raisons au moins du masculinisme?
Alors, Édouard Louis, dans ce qu'il vient de dire là, en tout cas, je ne sais pas tout ce qu'il a pu dire avant, mais il donne une relation de cause à effet et ne justifie aucunement les comportements.
Non,
c'est
sûr.
Très différent. Voilà, comprendre la relation de cause à effet d'un. Et donc, en effet, je pense qu'il a certainement raison sur ces aspects-là. Claire le dit très bien, c'est-à-dire que moi, j'essaie d'être optimiste, hein, parce que l'optimisme n'est pas un luxe, c'est une nécessité, je pense, hein, pour avancer. Et donc, partons de ce principe. Moi, je crois qu'on va forcément aller dans le bon sens, mais il faut absolument, moi, je crois beaucoup à l'éducation. Je crois beaucoup à sortir de cet égocentrisme en fait exacerbé qui est alimenté aussi par les nouveaux réseaux de communication qu'on utilise, à savoir les réseaux sociaux, où en fait tout nous est personnalisé et servi pour nous-mêmes, et donc on a tendance à se voir comme le centre du monde. Et je pense que dans ces moments-là, on a cette sorte d'effet de zoom aussi sur nos propres malheurs et ressentiments. Et il faut absolument sortir de cette politique et démocratie du sentiment pour revenir à la raison. Et pour ça, il y a du travail et l'éducation. Je pense que c'est un élément moteur, et c'est en cela aussi qu'on voit qu'en fonction du niveau d'éducation, en fonction aussi de certains pays où l'éducation n'est pas un prérequis, ben on voit aussi des comportements masculinistes beaucoup plus forts et un rejet des femmes. Donc s'il faut, je pense que l'éducation est une part importante de cette évolution.
Merci Aurélie Jean, on retrouve vos chroniques régulières dans Le Figaro et vous avez publié un que sais-je très utile sur les algorithmes aux éditions des Presses universitaires de France, et votre dernier livre, Le Code a changé, amour et sexualité au temps des algorithmes aux éditions de l'Observatoire. Merci Claire Allais, on peut vous lire régulièrement dans Le 1, et votre dernier livre, Aux origines de la domination masculine, c'est édité au Seuil. Et merci Yvan Jablonka, on peut, pour aller plus loin, lire trois de vos livres, Laetitia ou la fin des hommes justes du patriarcat aux nouvelles masculinités, Un garçon comme vous et moi, et ces trois livres sont aussi au Seuil. Enquête de politique est réalisée par Christophe Imbert, archives sonores Franck Olivard, à la technique aujourd'hui David Diboué-Black, programmation musicale Thierry Dupin. Tous les numéros d'Enquête de politique sont à retrouver en podcast bien sûr sur l'appli Radio France, et je vous retrouve dimanche prochain après le journal de 18h, et on va se demander si le conservatisme n'est pas en train de devenir tout simplement réactionnaire. D'ici là, n'oubliez pas, si vous ne vous intéressez pas à la politique, c'est la politique qui s'intéressera à vous.